On vient de passer Youtête qui se lève, et peut-être c'est l'occasion de commencer cet audio avec une histoire du Baal Shem Tov au sujet de Rosh Hashanah, puisque Youtête qui se lève, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute. On raconte qu'un jour, le Baal Shem Tov, il a demandé à un de ses Chassidim de se préparer pour sonner du shofar le jour de Rosh Hashanah. Alors le Chassid, il s'est appliqué vraiment de toutes ses forces. Et il a écrit comme ça toutes les kavanot, il a fait un résumé, comme ça il s'est vraiment donné à cette tâche-là avec passion. Et il a écrit donc tout un petit résumé comme ça de toutes les kavanot qu'il devait avoir au moment de la sonnerie du shofar. Et arrive le jour de Rosh Hashanah, au moment où il se prépare juste à sonner du shofar, il cherche dans ses poches le papier sur lequel il avait tout écrit, et il se rend compte qu'il avait perdu le papier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme réaction, il se met à pleurer de désespoir comme ça, de tristesse d'avoir perdu ce papier. Et il va sonner du shofar en pleurant. Et le Baal Shem Tov vient ensuite, à la fin de la prière, le féliciter d'avoir aussi bien sonné du shofar. Alors, on dit que c'est le Baal Shem Tov lui-même qui a fait perdre le papier à ce chassid-là. C'est-à-dire qu'il a vraiment agi de manière à ce qu'il n'ait plus le papier et qu'il sonne du shofar, mais pnimiut alev, vraiment de la profondeur, avec toute la profondeur de son cœur. Reuta deliba. C'est dans cette histoire, on voit que le Baal Shem Tov, qui représente vraiment le Nassi, le Rosh Béné Israël, il est celui qui va réveiller l'essence de l'âme du chassid. Alors c'est intéressant de se rappeler que Reuta deliba, justement, on peut commencer par se rappeler de l'enseignement du Torah Or, de la Mora Zaken, sur Reuta deliba, sur la paracha Vayeshev. Le Baal Shem Tov, il explique que pour quelle raison on appelle la terre d'Israël Eretz Knaan, parce que Knaan, le Knaani, ça fait allusion à un vendeur. Un vendeur, c'est celui qui va se sacrifier de son argent pour acheter de la marchandise et pour pouvoir rapporter plus qu'auparavant. De la même façon, on compare ce vendeur à l'âme juive, l'âme qui descend s'habiller dans un corps et qui va sacrifier cet amour et cette crainte pour Dieu qu'elle avait avant de descendre dans le corps pour en fait s'habiller dans un corps vraiment matériel et se battre vraiment de toutes ses forces pour que ça lui rapporte encore plus. Vraiment comme ce vendeur qui va investir de son argent pour que ça lui rapporte encore plus, l'âme divine, elle va vraiment sacrifier quelque chose de très précieux, l'amour et la crainte, qui sont d'ailleurs comparés à de l'or et à de l'argent, pour que ça lui rapporte encore plus. C'est-à-dire que de quelle manière on agit pour réveiller le Reuta deliba, la profondeur du cœur, c'est quand on descend justement dans un corps matériel et qu'on médite au fait qu'on est loin de Dieu. À ce moment-là, quand on médite à cette distance si éloignée, quand on médite au fait qu'on est très loin de Dieu, alors on va réveiller la profondeur du cœur. Et cette profondeur du cœur, ça fait vraiment allusion à l'essence, ça fait vraiment référence à Pnimiut Alev, la profondeur du cœur, c'est-à-dire la force de l'essence de l'âme. Alors comme on l'a dit, et c'est le point qui nous intéresse ici, on voit que le rabbi, c'est celui qui réveille l'essence de l'âme, comme on vient de le voir au moyen de cette histoire-là. Maintenant, si on se rapporte au Dvar Malchut sur la paracha Vayeshev, le rabbi, dans ce Dvar Malchut, il va nous expliquer que l'importance, puisque Vayeshev, ça fait allusion au fait de s'asseoir, le fait de s'asseoir, de s'installer dans un endroit. De s'installer, c'est aussi une allusion au fait que l'âme, elle s'habille dans un corps, elle descend dans un corps matériel, c'est-à-dire pour agir dans ce corps matériel. De la même façon, la mission d'un chassid, c'est de s'installer dans une ville et d'agir dans cette ville. Alors on peut agir de deux manières, on peut agir de manière superficielle ou de manière très profonde. Quand on agit de manière superficielle, on va apporter de la lumière à une personne, mais cette personne qui va recevoir cette lumière-là, elle va pas changer pour autant. Mais quand on agit de manière profonde, quand on dévoile l'essence de l'âme de cette personne, vraiment, quand on la touche au plus profond d'elle-même, alors on va faire que cette personne-là, elle va fusionner avec le chassid qui l'influence. Donc on voit que le chassid, c'est un allumeur de réverbère, c'est celui qui va réveiller l'essence de l'âme d'un juif. C'est pour ça que c'est important de faire le lien ici avec Hanouka. Alors on peut donner cet exemple-là, l'exemple d'une bougie. Quand on prend une bougie qui est allumée et qu'on allume une deuxième bougie, on voit que la flamme de la première bougie, elle diminue pas pour autant. C'est pas parce qu'on va allumer une bougie que la flamme de la première bougie, elle va diminuer. Au contraire, elle garde toute sa force, toute sa puissance. C'est pour ça que la flamme d'une bougie, cet exemple-là, c'est un exemple qui convient tout à fait pour exprimer l'idée de transmettre, de réveiller les sens de l'âme. À partir du moment où un chassid, il s'attache à allumer, à réveiller les sens de l'âme d'une personne, alors non seulement il va arriver à un résultat qui est extraordinaire, puisque la personne qui va recevoir cette influence-là, elle va agir à son tour vers d'autres juifs, elle va pouvoir réveiller l'âme d'autres juifs, c'est-à-dire qu'il aura réussi sa mission. Mais on voit que lui-même, il perd rien de ça, au contraire, il ne fait que gagner. Donc cette fusion qui existe entre le chassid et la personne qui va recevoir la lumière du chassid, c'est une fusion qui est vraiment, qui correspond et qui exprime toute la force de la lumière infinie de Dieu. C'est le sujet de Hanouka. Le sujet de Hanouka est aussi le sujet du Dvar Malchut. Alors, dans le Dvar Malchut, le rabbi va expliquer que non seulement on doit réveiller l'essence de l'âme d'un homme, mais comme c'est écrit dans le Tanya, on doit agir, chaque juif, il a une part dans ce monde matériel qui doit sanctifier. C'est-à-dire vraiment dans l'espace même de ce monde. Il a une part physique qui se doit de sanctifier, d'élever, de purifier. Et l'idée qui est donnée ici, c'est le rabbi nous rappelle que les rebbeim chabad, les maîtres de la chassidut chabad, il cite le rabbi Rachab, le rabbi Rayatz et même lui-même, ils vont agir dans une ville, ils vont agir dans un pays, de manière à pas seulement influencer ce pays, va recevoir une lumière comme ça de la Torah, mais de transformer ce pays afin que lui-même devienne une source et un exemple pour tous les autres pays. Alors, quand on agit dans une ville, quand on agit vraiment de toutes ses forces en installant des yeshivot, tomchit mimim, c'est-à-dire vraiment quand il prend l'exemple de la France. La France, on voit que c'est une ville qui est devenue, qui est d'abord, il soulève le problème. Il dit que la France est un pays qui est très très impur. C'est vraiment le pays vraiment où il y a une clipa très très forte. Alors l'exemple qui est donné, c'est celui de Napoléon Bonaparte, puisqu'on se rappelle que l'Amour Azaken, il avait préféré la victoire des Russes face à celle des Français, parce qu'il avait vu que la France, c'est pendant la Révolution de 1789, on voit que le peuple, il va couper la tête du roi par la guillotine. Donc cette image-là d'un peuple qui coupe la tête du roi, ça fait allusion justement au fait de se séparer, vraiment de couper tout contact avec le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une klipa qui est extrêmement très forte. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? De notre côté, Dieu y a créé une chose et son contraire. C'est-à-dire que la France, d'un côté, elle représente l'impureté la plus totale, le fait de se séparer du roi des rois. Mais de l'autre côté, comme on le voit, par exemple, pour le Nahash, le mot Nahash, il a pour valeur numérique 358, exactement comme la valeur numérique de Mashiach. Donc on voit que l'autre côté, si à partir du moment où on va sanctifier l'autre côté, on va arriver à une délivrance qui dépasse toutes les mesures, toutes les limites. Et de cette façon-là, on se rend compte que la délivrance finale, elle dépend précisément du fait de purifier et de sanctifier la France. Donc cette œuvre-là, elle a été réalisée par les Rebbeim, elle a été suivie par les Chassidim, et les Chassidim eux-mêmes, ils se sont attachés à publier des livres de Torah, ils se sont attachés à fonder des yeshivot dans lesquels on apprenait la Chassidut, ils se sont attachés à diffuser l'enseignement du Rabbi vraiment dans toutes les villes de France, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc cette force-là, elle a pour effet de provoquer la délivrance finale. Maintenant, c'est bien de voir ici un exemple, c'est celui du rabbi qui va élever la Marseillaise. Donc la Marseillaise qui a pour origine cette révolution française qui s'opposait totalement à l'esprit même de sanctifier ce monde, le rabbi va chanter la Marseillaise et va en faire un chant chassidique. Alors, pourquoi c'est vraiment un exemple qui est vraiment judicieux ici? C'est parce que, si on se rappelle de l'enseignement que le Rabbi Rachab nous a donné au sujet du Nigoun, et c'est un enseignement que je reprends tout le temps dans les Shiurim, puisque c'est un exemple qui est très très important. Rappelez-vous, on raconte que le Rabbi Rachab, qui s'apprêtait à dire un mahamar chassidique, et les chassidim, c'était des jeunes bachourim, ils se sont empressés de chanter le nigoun qu'on chante avant même que le rabbi prononce ce mahamar. Pourquoi ils se sont empressés? Parce qu'ils étaient pressés d'entendre le discours chassidique du rabbi Racham. Quelle fut la réaction du rabbi à ce moment-là? Il ne récita pas le mahamar, mais il leur dit qu'ils avaient fait une erreur, une grave erreur, parce qu'ils avaient bâclé le nigoun pour entendre les paroles de Chassidik, les paroles du rabbi, du mahamar. Ils avaient bâclé ce nigoun alors que le nigoun lui-même, selon l'enseignement du rabbi Racham, il fait en quelque sorte partie du mahamar. C'est une introduction au mahamar. C'est le moyen de faire de nous-mêmes un réceptacle pour pouvoir entendre ensuite les paroles du mahamar que le rabbi prononce. Donc on voit l'importance de cette préparation au mahamar. Et ce qui est important ici, de vraiment ressentir même, de comprendre jusqu'à ressentir, et c'est le rabbi qui nous donne cet enseignement dans un des Dvar Malchut, il nous dit à quel point c'est important, pas seulement l'événement qu'on attend, mais la manière dont on se prépare à cet événement. C'est pour ça que le mahamar lui-même, qu'on va entendre du rabbi, il a besoin d'être précédé par ce nigoun. Le nigoun, c'est la plume de l'âme, c'est lié avec la profondeur du cœur, comme on l'a dit, Reuta Deliba, qui est liée elle-même à l'essence, à la force de l'essence de l'âme. Donc on doit comprendre l'importance du nigoun, on doit comprendre à quel point il est lié au mahamar du rabbi, et à quel point même il fait un avec lui. Alors quand le rabbi lui-même, il va chanter la Marseillaise, il va en faire un nigoun chassidique, c'est évident qu'on voit ici le but du rabbi vraiment d'ajouter encore, de transformer cette clipa qui existe en France, et enfin, dans le but de faire qu'on voit que même Tsarfat, ça a pour valeur numérique 770, exactement comme l'adresse même de la maison du rabbi. Donc on voit que le nigoun, ce nigoun-là de la Marseillaise, il est dans ce nigoun-là, par le fait que le rabbi il va le chanter, il va le transmettre à ses chassidim, on voit ce qu'on a dit au tout début, quand on a parlé de l'importance de se trouver dans les quatre coudées du rabbi, c'est-à-dire de s'attacher à ses enseignements, de vraiment d'accomplir ses injonctions, d'accomplir sa volonté, parce que le rabbi il a le pouvoir de dévoiler l'essence de l'âme d'un juif. Donc c'est cela le point qui est donné ici dans ce Dvar Malchut de Meïchev. C'est encore une fois la fusion entre le rabbi et le chassid, mais là cette fusion elle s'exprime par le chant, par le nigoun, et c'est intéressant de faire un lien avec la 613e mitzvah de la Torah, c'est « et vous m'écrirez un chant ». Et vous m'écrirez un chant, donc ça veut dire le chant lui-même, on doit l'écrire. Donc c'est deux choses qui semblent s'opposer, puisque l'écriture c'est au moyen de choses matériel, au moyen d'un élément matériel, quand on écrit avec de l'encre sur du papier, et un chant c'est quelque chose qui est spirituel. Alors c'est intéressant de se rapporter encore une fois au Torah Or de l'Admor HaZaken sur la parasha Vayeshev, parce que dans un de ses discours, l'Admor HaZaken il explique que la voix, elle unit le sentiment qui est dans le cœur avec les mots qui sortent de la bouche. De la même façon, la voix de la Torah, Kol Yaakov, elle unit la volonté divine, la kavana de Dieu, avec des mots matériels. Des mots qu'on écrit au moyen d'une plume sur du parchemin. Donc la voix de la Torah, Kol, ça représente l'union entre l'esprit et la matière. De la même façon, le nigoun lui-même, il représente ce lien-là, le lien avec un sentiment qui est profond. Reuta Deliba, la profondeur du cœur, il va unir cette profondeur du cœur avec des mots, avec les sons même d'un nigoun. Donc, et vous m'écrirez un chant, on voit le rapport qui existe entre le chant, vraiment, et le rabbi lui-même qui représente l'essence. Et vous m'écrirez un chant, donc c'est le fait d'asseoir, de vraiment de vayeshev, d'habiller comme ça un sentiment qui est très profond, et de le faire descendre dans les mots de la Torah, dans la voix de la Torah, et surtout dans la partie profonde de la Torah. C'est pour ça que c'est important de se rappeler toujours de ce lien qui existe entre le nigoun et la chassidoute. Là, le nigoun, il fait partie de la chassidoute. Il fait un avec elle. De la même façon, le nigoun, il fait un avec le mahamar du rabbi. Alors, le mahamar du rabbi, ça représente la délivrance finale. Et le nigoun, ça représente l'attitude que chaque juif, il doit avoir pour provoquer justement la délivrance finale. Et vous m'écrirez un chant, chaque jour de notre vie, on doit vraiment s'investir de toutes nos forces et surtout méditer, se rappeler de cet enseignement dans la Mora Zaken, méditer au fait qu'on est très éloigné de Dieu, parce que le fait de méditer au fait qu'on est très éloigné de Dieu, ça réveille dans le cœur la profondeur même, toute la profondeur du cœur, elle va se révéler à ce moment-là. Et comme on l'a dit au début, le vendeur, c'est celui qui va sacrifier d'un amour et d'une crainte que l'âme est ressentie au début avant sa descente dans le corps, pour gagner quelque chose d'encore plus grand, pour révéler l'essence. Et c'est pour cela que dans le Dvar Malchut, le Rabbi, il explique que c'est précisément dans les mondes les plus inférieurs qu'on peut révéler l'essence divine, l'essence de l'âme, et faire de ce monde une demeure pour l'essence de Dieu. Bezrat Hashem, pendant ce moment de Hanouka qui est propice à la délivrance, que le désir de chacun, il fasse en sorte que toute la lumière de Hanouka, ce soit celle de la délivrance finale. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom, Omevorach.